Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Un épisode un peu particulier cette semaine parce qu'on vous offre un replay du live qu'on a pu mettre en place moins de 24 heures après la clôture du marché des transferts. C'était donc vendredi dernier. On était en live sur YouTube. On a un peu prévenu tout le monde au dernier moment, mais vous étiez quand même nombreux à nous suivre. Donc merci. Pendant ce live, on est donc revenu sur les principaux mouvements avant la clôture du marché, le non-trade de Kyle Lowry, l'explosion du Magic, les bons coups des Bulls, l'arrivée de Victor Oladipo, etc. On a aussi répondu à vos questions, hein, parce que vous étiez nombreux sur le chat à nous en poser, donc on vous en remercie, d'où la nécessité de nous suivre sur Twitter et sur YouTube pour être au courant de ces lives un peu sauvages. D'ailleurs, on avait eu quelques soucis techniques pendant le live, mais ils ont été en grande partie corrigés pour cette version audio au prix d'un montage qui m'a pris toute une après-midi. D'ailleurs, dans ce live, pour des raisons qui m'échappent, vous entendez souvent des bruits de mains. C'est moi qui tape dans mes mains. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, vous inquiétez pas. Et puis, une autre annonce très importante. On a mis en place un questionnaire, c'est une sorte de tradition annuelle pour nous. Vous retrouvez ce questionnaire dans la description du podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. C'est tout simplement quelques questions, c'est rapide, c'est 100% anonyme, pour voilà connaître vos retours vis-à-vis du podcast, vos compliments bien sûr, mais surtout vos critiques et les points sur lesquels on peut s'améliorer. Voilà, c'est quelque chose qu'on met en place assez régulièrement pour en savoir plus, pour savoir peut-être si sur certains points on doit encore bosser, ou s'il y a sur certains points on a peut-être perdu en vitesse. Enfin bref, c'est assez important pour nous. Donc si vous avez quelques minutes, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, on vous invite à aller y répondre. Encore une fois, vous le trouvez dans la description du podcast et aussi sur le compte Twitter qu'on vous invite à suivre, comme le compte YouTube ou le podcast sur la plateforme de streaming où vous nous écoutez. Eh bien, du coup, moi, j'en ai terminé. On se retrouve donc dans quelques secondes avec Madiane, Alan, Tom et moi-même pour ce replay du live spécial Trade Deadline. Vous êtes en direct. Donc, on est techniquement, officiellement en direct au moment où on vous parle. Il y a un petit temps de latence entre notre logiciel et le live YouTube, donc il y a donc un magnifique chat. Si quelqu'un peut nous dire qu'on m'entend bien, ça nous serait vraiment extraordinaire. En attendant ça, je présente les personnes ici présentes pour discuter moins de 24 heures après la fin de la trade deadline. On a donc Madiane. Comment ça va, Madiane?
Ah, ça va très bien, et vous?
On a Tom avec un super maillot, montre-nous ça, de Dylan Brooks, alors que je vois un bonsoir, ça veut dire qu'on doit nous entendre, super.
Il s'est levé comme en classe.
Et vous l'avez vu, on a avec nous modèle Instagram, Scoot, c'était tellement de casquettes. Il y a Alan, comment ça va Alan?
Ça va, le nouveau représentant du fan club de Mo Wagner.
Ah ouais, c'est très sombre. Et vu que Tom n'est pas le seul à avoir... Moi, j'ai Orlando, voilà, avec un petit Dwight Howard, la dernière fois qu'ils étaient un peu près bons.
Les gens le savent, les anciens.
Les gens le savent.
La dernière fois, ils ont passé un tour de playoff aussi, je crois. Il y avait Dwight.
Tu sais que j'ai cherché cette stat, Tom, en me disant... parce que là, ils sont pas prêts d'en passer un. Donc je me dis, ils vont combien de temps sans en passer un?
Ils sont pas prêts d'y aller.
Ils sont pas prêts d'y arriver. Donc du coup, on voit des messages dans le chat, ça veut dire que tout va bien, merci, on dit bonjour à... Bah, je vais pas dire bonjour à Madiane, parce qu'en fait, je suis avec toi. On dit bonjour à Shango, Jules Morel, Joe Danielos, Yacine, N5, bonjour à tout le monde, et merci d'être là.
Shango, le fan des Bulls.
Et bon, on en parlera beaucoup des Bulls. On est quoi là? Apéro, avant manger. Bref, les gars, on va pas perdre de temps. On parle de la trade deadline. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. Je sais qu'il y a tellement de choses à dire. Qui veut commencer? Quelque chose qui vous a marqué? Je sais pas. Je vous laisse champ libre. On prévient les auditeurs. C'est un live, donc ça va être un peu moins structuré que d'habitude. On va être honnête.
Moi, j'ai une équipe qui m'a intéressé. C'est Dallas. Parce qu'ils n'ont rien fait de très... Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup bougé, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'ils considèrent que cet été était un échec, cette intersaison est un échec, parce qu'ils reviennent en arrière sur ce qu'ils avaient décidé. Là, ils viennent apporter, notamment avec Redick, un gros shooter qu'ils avaient perdu avec le départ de Seth Curry. En fait, ils ont compris qu'ils avaient besoin de punir sur pick and roll tag de la défense adverse qui viendrait essayer de ralentir le poseur d'écran lors de son accès au cercle avec Doncic. Ils ont besoin de cette punition là pour être très efficace offensivement. Alors défensivement, ils vont le payer, mais je trouve ça très intéressant parce qu'ils ont décidé de repartir comme l'an dernier.
Donc là, on a une question de... Je suis désolé, j'ai toujours ce petit point fait pour les pseudos. Al, et je dois mettre mes lunettes en plus, et c'est en très petit. Hein. Le mec cherche des excuses. Atrimieda83, la contrepartie pour Oladipo. Les réseaux sociaux ont beaucoup parlé de ça. Oladipo, Tom, Alan. C'est vrai que je pense que les gens font l'association départ de James Harden, arrivée de Victor Oladipo, 20 matchs d'Oladipo, et il part contre Avery Bradley, Kelly Olynyk, qui est deux second tours.
Et un swap, ouais.
C'est ça. Et un swap, ouais, très peu.
Quoi. Enfin, un swap, y a pas de tour, c'est un swap. En gros, c'est le tour de draft de Brooklyn qui récupère, en fait, ils ont le droit de swapper.
Alors, on est d'accord, très peu, mais on a envie de vous dire, l'ami Tillman, le propriétaire des Rockets, c'est ce qu'il voulait, il est là pour faire du profit. Hein.
Il est là pour payer le moins possible. Après, bien sûr, les gens, ils regardent le trade et c'est un peu ce que tous les insiders américains ont dit. Ils ont dit, ah, mais en fait, ils auraient pu avoir Levert, ils auront fusé Allen, des choses comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Je pense qu'ils veulent se garder de l'argent et être super nul pour pouvoir redrafter son joueur. Et en vrai, je pense que Caris Levert et Jarrett Allen, ils t'empêchent d'être super, super nul. Donc, après, ça reste à prouver. C'est pas non plus des joueurs. Si c'était deux meilleurs joueurs, tu vas pas être excellent. Mais tu sauvegardes de l'argent et je pense que t'as augmenté tes chances à la loterie, en fait.
Je suis pas fan parce que ce que je me dis, c'est que quant à l'Ouest, faut en profiter. Et justement, c'est pas ces joueurs-là qui allaient te faire gagner énormément de matchs en plus. Et au vu de la réforme de la draft, ça allait pas non plus te faire perdre beaucoup de place. Donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une base un peu plus saine pour gagner quand même quelques matchs en plus? Mais quand tu drafts, tu peux devenir plus vite, plus fort. Alors que là, repartir de zéro à l'Ouest, c'est compliqué.
Tom, tu voulais dire?
Stone, il applique la politique du propriétaire. Hein. Le propriétaire, il veut pas d'argent. Alors oui, ils auraient pu avoir Ben Simmons, ils auraient pu avoir Jared Allen, ils auraient pu aussi avoir Karl Seviert. Mais le propriétaire, il voulait pas des contrats de Ben Simmons, de Jared Allen et de Karis LeVert. Donc lui, son objectif, ça va être juste d'être au niveau du salary floor et de bénéficier de l'argent, quoi. On rappelons que Fertitta, c'est un mec qui a, enfin voilà, il a fait un prêt avec, il a fait un gros prêt avec un haut taux d'intérêt, je crois, c'est à 15%. Donc le mec, il est pas là pour dépenser de l'argent. Hein. Et vu son business, clairement, hein, c'est vraiment un trade financier. Hein, c'est vraiment un mouvement financier. Donc du coup, la valeur sportive, elle est pas ouf, mais c'est vraiment sur le plan financier, en fait, qu'il faut regarder ce trade-là pour Houston.
Rappelons aussi que c'est un homme qui a écrit un bouquin qui s'appelle Shut Up and Listen. Tu vois, tais-toi, écoute. Donc je pense qu'on est clairement, c'est le projet, tu vois. On n'est pas
dans un dialogue.
Ouais. Ouais, clairement, il détruit, il gagne de l'argent. Hein. Moi, je vous avoue que j'avais raté ma psychanalyse de Fertitta parce que je pensais vraiment qu'il allait avoir l'ego, son ego allait l'empêcher d'être vraiment mauvais et qu'il allait toujours vouloir réussir à avoir une bonne équipe. Mais en fait, non. En fait, le mec, clairement, il veut juste l'argent. Alors, on voit qu'on a pas mal de hello. Donc, on dit bonjour à Kuro, bonjour à Théo, Flavien, Starship, John, Game. On vous dit bonjour à tous. On essaye de prendre les questions une par une. C'est quoi le projet à Toronto? Nous demande Théo. Alors, moi, je vous avoue que le non-mouvement de Kyle Lowry m'a un peu surpris, pour être honnête. Parce que clairement, On peut le comprendre 5 heures avant la trade deadline, mais vu le momentum qu'il y avait au moment, les quelques minutes avant la fin du marché, enfin tout indiquait qu'il allait être transféré et finalement il y est pas. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, Alan.
Surtout ils ont transféré Powell. En fait ils ont transféré Powell parce que ils veulent pas le payer. Je pense que c'est pour ça et qu'ils se disent que même s'il faut payer Gary Trent sera moins cher et plus jeune que Norman Powell. Ça m'étonnerait pas que Rodney Hood d'ailleurs soit coupé. Peut-être qu'il pourrait d'ailleurs, il pourrait peut-être aider une rotation sur la fin de saison à voir. Mais ouais, je suis surpris comme toi. En fait, je suis surpris parce que aussi j'aurais peut-être aimé qu'il soit tradé Kyle Lowry. Peut-être que ça influe sur ma posture, mais c'est vrai que le momentum faisait que en fait on voyait vraiment Miami, Philadelphie comme des. On se disait ouais, Brooklyn est super bon, faut peut-être aller chercher quelque chose pour pouvoir les concurrencer cette année. Et finalement, en fait, non, ils ont préféré des mouvements alternatifs. Qui les engage sur moins d'argent et sur du moins long terme, parce qu'en fait les gens disent Lowry c'est un expirant, mais ce qui était sorti un jour avant c'est que Lowry en fait il voulait une extension à 2 ans 50 millions dans l'équipe où il aurait signé. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est un écran de fumée, mais quand même, tandis qu'en fait Miami sur la dipo, moi je le vois vraiment, c'est un flyer, ils ont rien à perdre sur ce deal là. Si ça marche pas, il y a aucun problème. Et puis George Hill, c'est George Hill. C'est un joueur de rotation, il y a pas d'énorme risque, on sait ce qu'il va plutôt apporter. Donc ouais, comme toi, assez surpris, mais ça peut se comprendre pour les autres équipes. Pour Toronto, je le comprends moins.
Et je réponds juste à une question. Oui, on a atteint les 205 étoiles sur Apple Podcast. Ça, c'est la nouvelle de la semaine. Ça, on vous remercie. Parce qu'il y avait une question. C'est la dernière qui est arrivée. Je passe l'ordre juste pour répondre à celle-ci. Vous avez pensé de quoi de Toronto, les gars? Je rejoins grandement ce qu'a dit Alan. En gros, tu te sépares de Norman Powell. Tout va en roster spot. Tout indique que tu vas transférer Kyle Lowry. Peut-être, il y a eu, c'est bizarre, mais Masai Ujiri qui avait pas fait de sentiment pour envoyer DeMar DeRozan du côté des Spurs, là peut-être qu'il a été trop gourmand.
Ils ont ouvert des roster spots hein, parce qu'il a Terrence Davis et Matt Thomas aussi contre des picks. Donc
Après je pense que c'est un peu un fuck you move à Pat Riley, parce qu'en fait vu que ils étaient c'est pas ça en fait, c'est, tu vois, de toute façon ils peuvent toujours après envoyer Lowry dans un sign and trade dans l'équipe où il veut aller l'année prochaine, tu vois, ils ont quand même ses bird rights et ils peuvent récupérer une trade exception, un peu comme ce que Boston a fait avec Gordon Hayward et un peu ce que Boston peut-être envisage de faire avec Evan Fournier, on sait pas. Mais tu vois, moi c'est un truc, je me dis que la contrepartie, vu qu'il restait que Miami sur le board, ben en fait t'as plus d'autres personnes et pour faire levier, et je pense que ils ont utilisé les Lakers avec l'histoire de THT juste pour faire levier. Je pense pas que c'était une piste vraiment crédible, et au bout d'un moment ben il y avait que Pat Riley, et Pat Riley il a dû lui dire au coup de c'est ça ou rien, et ben Ujiri je pense il lui a dit fuck. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu après Miami se rabattre entre guillemets sur Oladipo en ayant un peu la même stratégie où vu qu'ils avaient écarté tout le monde, il y avait énormément d'écrans de fumée sur le fait que voilà la valeur de Oladipo et qu'il n'y avait pas vraiment d'offre. Ils savaient que c'était les seuls à faire une offre. Ben du coup, Houston, c'était ça ou rien quoi.
On remonte les questions. On avait des questions sur Projet Toronto. On a fait Wendell Carter va-t-il s'épanouir avec son ami Mo? Alors on va ouvrir le dossier Orlando. On n'est pas tous, alors on va être honnête, on nous accuse parfois d'être un peu tous d'accord, on n'est pas du tout d'accord sur Orlando. La parole donc à la défense. Alan, on sait que t'as un peu défendu ce qu'a pu faire Orlando.
Ouais, parce que je suis content de ce qu'ils ont fait, ils ont, comme je l'ai tweeté hier, alors oui, j'entends ce que vous allez dire, vous avez sûrement raison, c'est trop tard, mais vaut mieux trop tard que jamais. Vaut mieux ça que perdre Fournier contre rien. Vaut mieux ça contre garder Vucevic sur la fin de saison. Et donc récupérer un pick 10 à la draft qui ne va rien changer dans le futur de la franchise, vaut mieux ça contre eux, et aussi garder Aaron Gordon, continuer à ce que ça fonctionne pas en fait, à s'entêter et avoir et en fait donner ces trois joueurs là à Steve Clifford. Et ben en fait Steve Clifford il veut gagner des matchs, donc il va les faire jouer, et maintenant Steve Clifford il va être obligé de faire jouer des joueurs moins bons, et donc ils vont de facto être moins bons. On peut pas tanker avec Steve Clifford, il faut lui mettre des joueurs pas bons pour que ça marche pas. Donc je suis content de ça.
Ou alors tu le vires.
Oui, tu le vires, mais ça reste comme un coach pas affreux. C'est un peu comme Borrego du côté de Charles, je trouve. Il va te développer des choses. Il faut juste le forcer à être pas bon, ou alors avoir un coup de chance à la draft comme a eu Charlotte l'an passé. Et Orlando, ils ont pas eu de chance en fait à la draft quand ils ont ces derniers temps. Donc là, ils récupèrent des jeunes, ils vont donner des minutes, ça va être pas beau à regarder, mais ça va devenir une équipe qui va être dans la loterie, je pense, sur les 3-4 prochaines années. Je suis content de ça pour eux. Et voilà, rien de plus à dire.
Prépare-toi à voir Kevin Bioch 30 minutes ce soir.
Oui, non, mais c'est...
Tom, tu serviras d'arbitre. Je vais donner la parole à Madiane.
Mais il n'y a pas arbitré parce qu'il y a des choses que je comprends. Il démarre la saison. Moi, je les vois en play-off et ils se voient aussi en play-off et ils se voient en fait dans la lignée de ce qu'ils avaient fait. Pas très flamboyant, mais solide plancher et ils vont y arriver malgré l'absence d'Isaac. Et bah, la saison tourne au vinaigre. Mais il y avait, en fait, ils avaient deux choix. Soit ils se disaient, ben, on reste comme ça, on essaye de re-signer Fournier, Vucevic, on l'a pour longtemps, et puis on récupère nos assets et on rejoue l'an prochain un huitième spot. Mais en fait, est-ce que finalement ils n'ont pas eu des signes côté propriétaire que c'était pas si grave? Ben, à partir de là, si ton propriétaire il veut pas absolument que t'ailles en playoff, bah, si ton propriétaire il veut absolument pas que t'ailles en playoff, bah go reconstruire parce que de toute façon le plafond de cette équipe était pas très haut. Donc à partir de là, je trouve ça logique. Après ce qu'ils récupèrent, c'est pas génial. Mais qu'est-ce que tu pouvais récupérer de mieux?
C'est il y a Luc qui nous dit, ils récupèrent de bons jeunes et préparent un gros cap space. Ça je l'entends bien, mais les bons jeunes. Orlando,
c'est théorique, les bons jeunes.
C'est théorique. Et puis, il reste quand même le problème que sur le front court, t'as Jonathan Isaac, Wendell Carter qui a jamais joué 4 NBA et Mobamba.
Et OKK.
Et Tom l'a dit, Ken Birch qui est un meilleur joueur que lui à l'heure actuelle. Donc.
Mais Wendell Carter, il a surtout pas joué, quoi.
Moi, en fait, ce que je me demande à l'heure actuelle du côté d'Orlando, c'est pourquoi s'être séparé des 3 membres en même temps? Parce qu'on savait bien que tout le monde était plus ou moins sur la, devait partir, mais se séparer de tout le monde en même temps, alors que t'aurais pu peut-être garder Aaron Gordon, enfin, t'aurais pu garder un des 3. Se séparer des 3 en même temps, j'ai du mal à comprendre. Et puis, alors on me dira qu'il y a des raisons contractuelles, bien évidemment. Et puis, je trouve par rapport à Orlando, c'est que c'est pas OK ici, en fait. On n'a pas un historique de développement de joueurs. Il y en a pas à Orlando. Donc du coup, moi ça m'inquiète énormément parce que cette stratégie de on va finir dans les derniers, on va reconstruire, il y a 5 équipes qui sont en train de la mettre en place en NBA et je peux vous dire que autant OKC ça m'inquiète pas trop parce qu'ils ont un développement et ils ont une montagne de pics, Orlando un peu plus. Tom, l'arbitrage.
Moi je suis plutôt du côté d'Alan hein, puisque enfin dans le sens où moi je comprends ce qu'ils ont voulu faire, ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient récupérer au moment où ils pouvaient quoi. Et puis vaut mieux de toute façon. Je pense que en termes d'offres, les offres n'auraient pas été meilleures après. Donc
mais elles étaient meilleures avant.
Qui récupèrent.
Ah oui.
Ouais, elles étaient meilleures avant, mais c'est trop tard. Tu vois, tu peux pas revenir. Voilà. Et on voit du coup la différence, la notion de vendre tôt. Vucevic, il a encore plusieurs années au niveau de son contrat est descendant, on voit que voilà il est au pic entre guillemets de sa valeur, on voit bien que les contreparties qu'ils ont récupérées pour Vucevic, même si c'est un meilleur joueur aussi hein, sont totalement différentes des contreparties qu'ils ont récupérées par exemple pour Evan Fournier. Donc voilà, c'est là la notion où quand tu sais que tu vas entre guillemets reconstruire, ben vaut mieux que tu le fasses tôt pendant que tu sais, un peu comme OKC, voilà, OKC l'an dernier ils font les playoffs. Tous les joueurs sont max de leur valeur, ben voilà, ils transfèrent tout le monde. Ils n'ont pas attendu que les joueurs soient moins bons.
Alors, on nous posait justement une question sur les Bulls. On va revenir sur Evan Fournier après, parce qu'on a notre fan des Celtics, Alan. Les Bulls, meilleur move de la trade deadline, alchimie direct, c'est une question de Furious Pat. Est-ce que, selon vous... Alors, on n'a pas Adrien, il ne pouvait pas se libérer, on va être honnête, on le salue, on sait qu'il nous regarde hein, depuis son vaisseau spatial qui est son setup, Adrien. Qu'est-ce qu'on pense des Bulls, les gars? Parce que c'était un peu l'équipe qui a fait l'actualité hier. Vas-y, Tom.
Bombarde,
Tom. Je vous laissais y aller. Hein, moi, les Bulls, c'est plutôt intéressant ce qu'ils ont fait dans une optique de jeu de player. En fait, ils ont fait un peu le contraire de ce qu'ils avaient fait avec Butler. Là, en fait, ce que les Bulls ont fait, c'est qu'ils ont dit, Zach LaVine, on compte sur toi. Tu nous as montré que tu faisais peut-être partie du DH20. Tu nous as montré que tu faisais peut-être partie du DH20. Et du coup, on va chercher un All-Star pour voir si tu peux faire les playoffs et montrer quelque chose en playoffs. Puisque Zach LaVine, aujourd'hui, c'est un joueur qui n'a jamais fait les playoffs dans sa carrière, qui n'a jamais été dans une équipe avec un bilan positif. C'est assez marrant, en fait. Je pense que le move de Chicago, on le voit différemment parce qu'il y a aussi la notion de playing. Puisque voir une équipe, par exemple, si tu es là, la Chicago, ils sont à quoi, 5 matchs en dessous des 50%, ils sont genre 10e, je crois. Ils sont 10e. Une équipe qui fait un move comme ça, quand il n'y a que 8 spots, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'ils font? Alors que là, le fait qu'il y ait le play-in, tu vois, peut-être que ça change un peu la façon dont on... Moi, je trouve que le move est plutôt intéressant, puisque c'est une équipe qui va essayer de gagner des matchs, qui s'assure aussi de verrouiller la vie et qui met, entre guillemets, la pression sur le développement de leur drafté.
Kobe White. Pat Williams.
Non, pas Kobe White, Pat Williams, ouais. Donc, Pat Williams, ça va bien fitter, entre guillemets, avec Vucevic. Donc, je pense que c'est plutôt intéressant ce qu'ils ont fait, les Bulls, même si c'est peut-être court-termiste. Et je me dis que Karnisovas, son objectif, c'est pas forcément de gagner le titre dans les 4 ans. Peut-être que lui, l'objectif qu'on lui a donné dans les 4 ans, c'est d'avoir l'avantage du terrain, au moins, sur ces 4 ans en playoff. Et il a plus de chances de le faire avec Vucevic que de le faire avec Wendell Carter.
C'est beau. T'en penses quoi, là? De ces moves des...
Personne parle de Lauri Markkanen, en fait. Parce que Pat Williams, il joue 4 avec Vucevic.
Je pense qu'il va jouer peut-être 3.
Avec mais avec Markkanen et Vucevic.
Non, je pense que c'est même Thad Young qui va jouer aux côtés de, ouais. Tu vois, pour le playmaking. Ouais.
Mais donc Markkanen.
Pour moi, c'est Thad Young, qui va starter, ouais.
Mais donc Markkanen n'est plus dans les plans de la franchise.
Peut-être
qu'il ira sur le banc pour baisser sa cote.
Mais non, sur le banc, il y a Thais maintenant.
Ouais, mais il peut jouer à côté de Thais, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Ils sont juste, on parle de l'effectif, là, eux, ils sont vraiment, vraiment profonds. Après, c'est une des marques de fabrique de ces équipes dans ce tiers-là, entre guillemets, à l'Est, ils sont tous profonds.
Comme Charlotte,
à défaut d'être des foot de guerre, ils sont tous profonds.
Mais il vaut mieux être profond, surtout cette saison. Je pense que cette saison, plus t'es profond, mieux c'est, parce que tu sais pas qui tu pourras aligner entre deux matchs. Et au vu, là, de la seconde partie de saison, qui clairement, enfin, le calendrier, si vous regardez, il y a des rythmes assez dingues pour certaines équipes, que du coup, ça permet aussi de relativiser. Il y en aura certaines qui vont s'effondrer, à mon avis. Et clairement, il vaut mieux être profond, parce que dès lors qu'il te manque un ou deux joueurs, il faut être capable d'aligner quelque chose de cohérent. Dès lors que tu n'en es pas capable, c'est une défaite automatique.
Ils ont rajouté de la profondeur réelle à l'aile. Hein. Au revoir les joueurs théoriques avec Hutchinson, là, qui se fait critiquer pour son front.
Mais Troy Brown, il est théorique aussi un peu. Troy Brown, il est toujours un peu théorique.
Ouais. Ouais, mais il a montré déjà de bonnes shots cette saison, alors que Chisholm, il est souvent blessé, porteur top 15 shooter, il est souvent blessé, il récupère aussi Aminu, qui est peut-être blessé aussi, mais bon, tu vois, ça te fait une rotation supplémentaire à l'aile. Donc, en fait, ils améliorent aussi leur niveau plancher, globalement, les Bulls, hein.
Ouais.
Puisque t'as beaucoup plus de vétérans, entre guillemets, dans la rotation.
Mais donc, c'est quoi le but? C'est aller en playoff?
Bah, ouais, je pense que le but, c'est d'aller en playoff et d'avoir l'espoir dans les 4 ans d'accueillir une série de playoffs, d'avoir l'avantage du terrain, puisque ils vont pas viser
pour ça. Non, parce que là, pour moi, sur les 2 prochaines années, ils peuvent pas passer un tour en playoff, hein, à l'Est avec l'équipe.
Non.
Après, jamais.
Pour l'instant, mais tu sais pas jusqu'où la vie n'ira, tu vois.
Oui, c'est clair, mais il y a quand même le trident Brooklyn, Philly, Milwaukee, qui est là.
Il y a les Celtics, il y a du monde, hein.
Méfions-nous quand même. J'ai quand même l'impression que.
Tu sais jamais, hein. Regarde Miami l'an dernier, si on te dit qu'ils vont en finale NBA, t'y crois pas, hein.
Ouais, mais là, on parle de Vucevic, on parle pas de Jimmy Butler quand même. Enfin, il y a des limites. Le plafond de Vucevic, on le connaît aussi. Donc,
ça dépend de
Le plafond de Vucevic est pas non plus ultra haut. Alors, ok, on peut compter sur la Vine.
On sait pas non plus, tu vois.
Non, mais on peut compter sur la Vine, ok, mais Vucevic, ça reste quand même limité au-delà d'un certain stade. Alors, il t'emmènera en playoff, à mon avis, et je m'inquiète beaucoup moins maintenant pour les chances de playoff des Bulls, mais viser beaucoup plus haut avec Vucevic, ça me paraît compliqué. Dès lors que t'as ton 1 bis, c'est ton pivot, ça limite forcément tes possibilités.
Mais après, tu vois, Vucevic, on l'a jamais vu avec un joueur aussi dynamique que peut l'être Zach LaVine. Et la vie, on l'a jamais vu
avec un partenaire
offensivement, tu vois. Même si bon, il y a eu des passages avec Towns, mais quand il jouait avec Towns, c'était pas le joueur qu'il était, tu vois. C'était plus c'était plus un shooter, estampillé shooter exclusif. Alors que là, c'est Zach LaVine, il est incroyable, hein.
Il regrette d'avoir envoyé Lavine et pas Wiggins, hein.
Alors, on a beaucoup parlé des Bulls. Maintenant, on va essayer de parler des Celtics avec Evan Fournier. Forcément, là, je vais lancer Alan. Qu'est-ce que t'as pensé du move?
très content. Très simplement, je suis très content du move pour Evan Fournier. Je suis très content parce qu'il fallait il fallait encore un joueur capable de passer, dribbler, shooter. Pour moi, Evan Fournier, c'est du Gordon Hayward en moins fort, mais c'est la même idée, en fait. C'est la même idée. Alors, c'est moins fort, mais c'est la même idée. C'est un joueur qui peut terminer les matchs pour les Celtics. C'est un joueur qui a des très bonnes stats en spot-up cette année. Alors qu'il avait pas mal la balle quand même à Orlando. C'est un joueur qui va apporter du playmaking, de la solidité. Et en fait, Boston est une équipe tellement forte en haut et mauvaise sur tout le reste de l'effectif que rajouter ce quatrième, cinquième joueur, ça va dépendre des classements de chacun dans l'effectif. Moi, je trouve ça super. Il y aura toujours, je pense, soit Kemba, soit lui, soit Smart avec soit Tatum, soit Brown dans l'équipe. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, ça apporte une solidité offensive. Et le problème des Celtics, il est pas défensif. Il est offensif, le problème des Celtics cette année. Je trouve personnellement. Pour ça, quand on me parle de pivot et tout ça, oui, je sais. Mais le problème des Celtics, c'est qu'ils mettent pas assez de points. En termes de défense, c'est pas atroce que ce qui est proposé. Donc moi, je suis super heureux, et surtout parce que la contrepartie, je la trouve très bonne. Moi, j'aurais été prêt à lâcher un Langford ou un Smith pour Evan Fournier. Donc, tu me dis que je lâche deux second tour, je suis heureux.
On nous dit Evan dans le rôle de Lou Williams aux Clippers, on valide. Est-ce que t'en penses quoi, Alan?
Bah déjà, c'est une vraie interrogation. Est-ce qu'il va starter ou est-ce qu'il va sortir du banc? Moi, je le ferais sortir. Moi, je sais pas. Est-ce qu'il starte à côté de Kemba et Smart retrouve un rôle de sortie de banc? Ou est-ce qu'on laisse Smart, qui est quand même important pour la solidité défensive du 5 de départ, surtout avec l'un, on sait pas ce qui va se passer au poste de pivot, si c'est Robert Williams qui va prendre la place de Tice. Donc, ça va dépendre. Moi, ce que je veux, c'est en fait, c'est plus avec qui va jouer plus de s'il start ou s'il start pas. En fait, comment Stevens va agencer la rotation? Est-ce que ça va être plus de minutes avec Tatum, plus avec Brown? Je sais pas, mais je suis un rôle de scoreur en sortie de banc. On a besoin de points à Boston en sortie de banc, vraiment.
Alors, on le pense pas vraiment, mais est-ce qu'il peut s'inscrire dans le futur des Celtics? Contractuellement, ça paraît extrêmement difficile.
Contractuellement, ce sera difficile, ok, mais en tout cas, moi je j'adore ce trade parce que vraiment, on rigolait beaucoup en début de saison en disant attention à Ted Exception, elle va pas jouer sur le terrain. Bon, bah là, ça y est, on a un joueur. Et franchement, je trouve qu'il apporte beaucoup de choses. Evan Fournier, c'est solide des deux côtés du terrain. On l'oublie, mais en défense, je l'ai souvent trouvé très bon et au sacrifice parfois. Sur certains joueurs, Clifford l'a beaucoup fait bosser là-dessus et je trouve que ça a porté ses fruits sur ces deux dernières saisons. Donc en plus, c'est pas un joueur négatif défensivement et je trouve que bah il peut t'apporter de la création, il t'apporte du tir indéniablement et justement, on sait pas s'il va starter ou pas et moi justement, c'est ce que je dis, c'est tant mieux, c'est que ça va permettre plein de nouvelles rotations, plein de possibilités de combinaisons de joueurs en fonction du match-up, de ce qu'il y a en face et de ce qu'il faut défendre finalement et je trouve que par exemple ben là on a peut-être quelque chose à jouer je sais pas face aux Nets ben là t'as avec Smart et lui t'as deux guards à opposer défensivement parce qu'il faut surtout pas mettre Kemba, ça va être difficile de le jouer dans ce type de match-up donc voilà il y a t'as quelque chose. Déjà, t'as des nouvelles combinaisons qui se font se faire, et c'est un joueur qui est très bon des deux côtés du terrain. En fait, ils ont un starter NBA alors qu'ils en ont pas foncièrement besoin. Ils récupèrent un peu ce que je trouve qu'ils avaient dans une certaine mesure avec Hayward, un mec qui peut faire un peu de playmaking, du tir, qui peut aussi un peu défendre, un joueur un peu polyvalent. Je trouve qu'il récupère ça en un peu moins bien certes, mais je trouve que c'est très décent au vu des conditions qu'avait Boston cette saison.
Tom, c'est Process qui nous demande est-ce que le besoin d'avoir un Fournier aux Celtics, ça met pas en avant l'échec Kemba? Alors pour être honnête, Kemba Walker, c'est un de nos sujets dont on parle assez souvent entre nous. Enfin, Alan dit souvent, enfin, on peut pas se couper là, mais visiblement, je traduis, tu feras un petit de la tête si je traduis bien ce que tu dis, Alan. Qu'en gros, bah oui, enfin, c'est plus le joueur qu'il était. Oui, c'est un semi-échec quand même du côté des Celtics. Tom, est-ce que Fournier, ça traduit ça et qu'est-ce qu'il peut apporter aussi? Enfin, je pense qu'on est globalement d'accord à ce qu'ont pu dire Madiane et Alan.
Échec, oui et non. Quand Kemba Walker est bon, les Celtics sont bons. Le problème, c'est que les Celtics, ils enchaînent des back-to-back et Kemba ne joue pas les back-to-back. Du coup, le fait d'avoir Fournier, ça te permet d'avoir un levier, entre guillemets, où les moments où Kemba n'est pas disponible, où il peut récupérer ce skillset-là. Après, c'est vrai que Kemba Walker, vu la situation de ses genoux et son contrat, si il fallait, si, enfin, comment dire, ce qui aurait été mieux entre guillemets, c'est utiliser des picks de draft pour pouvoir dumper son salaire à l'été. Tu vois, c'est... mais sauf que là, tu vas pas faire ça en plein milieu de la saison. Tu peux pas faire ça en plein milieu de la saison et tu es obligé d'avancer avec ce que tu as. Et puis, tu peux pas te permettre de dilapider des assets pour corriger ton effectif au moment où tu as deux joueurs comme Brown et Tatum qui explosent. Tu dois garder un maximum d'assets pour pouvoir améliorer l'équipe pendant que ces joueurs-là, eux aussi, améliorent leur, continuent leur ascension dans la ligue. Donc, alors oui, je pense que Kemba Walker aujourd'hui, c'est pas le joueur pour lequel Boston a signé, mais je pense que c'est pas lui le plus gros problème de l'équipe. C'est pas lui le plus gros problème de l'équipe. Et le fait d'avoir de récupérer Evan Fournier, ouais, ça leur offre un espèce de levier, quoi, un petit matelas pour avoir un niveau plancher quand Kemba Walker n'est pas là à cause des back-to-back. Et ça aussi, ça permet aussi de d'éviter que Smart ait trop la balle. Voilà. Oui. pour faire ça. Pour
surtout
faire
dans ça, les fins de match.
Smart ait trop la balle.
Ouais.
Voilà.
Alors, on a pas mal parlé des Celtics. J'essaie un peu de naviguer avec vos questions. Je me décoiffe. Alors, on a une question sur George. On va parler des meilleurs ennemis d'Alan. Les Sixers. Question sur George Hill. Bonne pioche pour les Sixers. Je vous avoue que moi, j'avoue que la fanbase des Sixers est quand même une fanbase qui me fascine personnellement. Je vous avoue que je regarde ça un peu comme un scientifique au microscope. Et oui, c'est un bon joueur remplaçant, mais fondamentalement, pour moi, il change en rien le plafond de cette équipe, en fait. George Hill va pas... Tom bouge la tête, donc je te lancerai après, Tom. Mais selon moi, alors oui, George Hill, j'en discuterai ça. Oui, George Hill est peut-être bon. C'est un bon shooter, ça va être ce qu'ils ont besoin. Un joueur qui a pas besoin de balles, qui va être dans le spot-up. Oui, mais on sait bien que cette équipe, elle va mourir parce qu'elle a pas de pull-up sur la ligne arrière. On sait tous que c'est comme ça qu'elle va mourir, cette équipe-là. Donc Tom, je te lance. Je te voyais un peu dodeliner quand je parle.
Ah non, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que c'est quand même par rapport aux moyens qu'ils avaient à disposition, je pense que c'est une bonne addition. Et puis c'est pas un prêt en gros. C'est pas un prêt, George Hill. Voilà, il a un contrat cette année, il a une année l'an prochain, même si elle est au minimum garantie. Tu vois, ils l'ont pour cette campagne de playoff là, et ils ont encore le contrat pour l'an prochain. Là où s'ils étaient allés chercher par exemple un Kyle Lowry, ça aurait peut-être demandé beaucoup trop d'assets pour ceux qu'ils étaient prêts à mettre, et Kyle Lowry, t'as aucune certitude qu'il allait re-signer après. Donc je pense que pour ce qu'ils avaient prévu de dépenser, c'est faire le mieux avec le moins, quoi. C'est pas le truc idéal, mais c'est le mieux avec le moins, donc c'est bien pour vous.
Très bien. Alors je remonte. Ils sont quand les seconds tours donnés par les Celtics? Question de Luc. Est-ce que t'as la réponse, Alan?
Alors,
personne.
On ne sait pas encore. Je crois pas que c'est sorti.
J'ai cherché pendant qu'on parlait, même sur. C'est pas sorti. Ok.
Je l'ai pas dans le tableau non plus.
Ok. Très bien. On remonte. Question de Kuro Shinchanel. Désolé. Encore une fois, je suis vraiment mauvais. Il aurait fallu un autre créateur Onyx, non? Peut-être, mais honnêtement, je suis assez surpris. J'avais peur qu'ils nous fassent une classique Knicks qui bouge beaucoup. Ils ont pas beaucoup bougé, les Knicks. Je trouve que ils continuent dans leur politique actuelle, c'est-à-dire on est bon. Les mecs sont quand même en play-off actuellement. Donc je pense que pas avoir trop chamboulé. Alors certes, se séparer d'un Austin Rivers, ok, mais globalement, je pense qu'ils sont cohérents sur le fil de leur saison. Et ça, c'est plutôt pas mal. Madiane, c'est les Knicks, on est obligé de te lancer.
Non, mais attention danger quand même. C'est-à-dire que ok, je comprends, et c'est vrai, mais il faudra pas être déçu s'ils ne les font pas finalement ces playoffs, parce que ça va être difficile. En tout cas, moi je comprends le choix de pas bouger, parce que même si tu bougeais, est-ce qu'il y avait vraiment un joueur qui te garantissait un spot en playoffs? Pas vraiment. Donc autant rester comme ça et espérer que ça tienne. Pour l'instant, ça tient et j'espère pour la fanbase que vous allez arrêter de souffrir avec cette équipe.
Ah, ils sont bien là, je pense.
Ouais, ça va.
Alan, on fait tous tes meilleurs ennemis. Les Knicks, il n'y a plus trop de rivalité. Mais alors, les Knicks, les Sixers, t'en penses quoi? Knicks est cohérent. Ah, je répète juste, Knicks est cohérent dans la même phrase. C'est 2021, les gars. Il y a une pandémie. Ouais. On peut plus sortir de chez nous. Voilà.
Les Knicks.
C'est pas le truc le plus surprenant actuellement.
Les Knicks font pas les cons. Ouais, non, je suis d'accord. Ils ont, c'est bien ce qu'ils font. C'est, je pense, c'est très très bien ce qui se passe au Knicks. Là, Austin Rivers, est-ce que sur la petite mini émergence d'un Quickler rend pas Austin Rivers moins important sur en sortie de banc? Sûrement. Donc ils se mettent dans un deal pour faire ça. Et puis je suis un peu d'accord avec vous sur les Sixers. George Hill va appartient à la rotation des incroyable. Appartient à la rotation des Sixers sur les playoffs, je pense. S'ils font une rotation à 8 ou 9, il est là. Plus que ça, je sais pas. Est-ce que George Hill va prendre quoi, 15-20 minutes en playoff dans cette équipe? Ouais. Plus peut-être, 20 minutes. Donc s'il met dedans sur catch and shoot, ce qu'il a toujours fait, c'est très bien. Mais je suis d'accord avec toi, il n'y a pas encore cette gravité sur le pull-up qui est pas totalement réglé quoi du côté des Sixers.
Ça dépend. En fait, je pense que tout dépend de l'importance qu'ils donneront à Maxi dans ouais. une série de playoffs.
Ouais, parce
que
cette
ça
reste Curry, quand même... cette Curry aussi.
Il y a cette Curry, ouais, et Milton, s'il est dans un bon.
C'est vrai.
S'il est dans un bon jour, puisque il a un peu
de. Le meilleur possible. Sixième homme.
Et ouais. On nous demande toujours Kuro qui nous demande Burks avec la balle en main, ça fait mal à la tête. On est d'accord.
Eh oui.
Rubio avait une faible valeur, non? Je pense que oui, mais je sais pas si vraiment amener Ricky Rubio dans l'héliocentrisme Julius Randle, c'était
grave.
C'était pas une bonne chose.
T'as des shooters à côté de Julius.
Et il faut voir les contrats aussi parce que faut bien avoir conscience que tout expire au Knicks. Hein. Là, cet été, il y a plus rien. Dans l'effectif, il y a Randle qui est à peu près garanti sur un certain montant des 18 millions et je pense qu'ils vont le garder. Sinon, tout le reste, il y a Barrett, Toppin, Knox et tout le reste, c'est pas garanti ou ça va dégager quoi. Il y a Quickley aussi. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas envie de bouger parce qu'ils se sont dit qu'ils allaient voir à l'intersaison tout simplement ce qu'ils allaient faire.
Ah, Starship John qui me répète la question. C'est bien, je vieillis. Hein. Le quart de siècle approche. Il faut me répéter les questions. Dallas reprend.
Le quart de siècle approche, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Dallas reprend un Gigi bonne pioche. Alors, on a parlé de Dallas au tout début, quand il n'y avait pas grand monde. On va peut-être reprendre et je vais lancer Tom sur Dallas. Qu'est-ce que t'as pensé de Dallas? Madiane en avait parlé. On précise que, bien sûr, la vidéo du live sera disponible après. Donc, si vous avez arrêté quelque chose, tout sera disponible.
Bah, totalement d'accord avec ce qu'avait dit Madiane. En gros, c'est une équipe qui avait essayé de s'équilibrer, puisque c'est une équipe qui était équilibrée sur un déséquilibre l'an dernier avec une attaque énorme et une défense moyenne. Ben là, ils ont récupéré des shooters. En fait, je pense que c'est une équipe qui a visé deux objectifs. Un, ils essayent de replacer Luka MVP. Donc ça, je pense que ça va scorer à foison et il va augmenter ses stats personnelles puisque là, les Lakers sont en train de descendre. Denver est peut-être avec le temps d'adaptation qu'il y aura avec
Gordon,
avec Aaron Gordon, tout ça. Donc, je pense que eux, ils ont moyen de remonter dans le classement et peut-être aller chercher un top 4 et qui pourrait du coup donner plus de valeur au classement MVP pour Luka. Et du coup, eux, ils misent tout sur l'attaque totale, quoi. Ils misent sur l'attaque totale et puis sur moyen aussi de d'augmenter entre guillemets la valeur de tous les joueurs qui sont à côté, quoi. Donc moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Madiane sur le sujet. C'est pas quelque chose qui va être révolutionnaire pour eux pour les playoffs, même si bon, ça peut quand même compter, mais je pense que c'est plus en saison régulière. Ça va shooter partout, le terrain sera écarté au maximum, et puis Luka Doncic va travailler, et vu qu'il est quasiment indéfendable pour attaquer le cercle et distiller après sur les extérieurs, donc les équipes ont des choix à faire, et je pense que ils vont exploser offensivement.
On va revenir un peu sur du Houston un petit peu après, on en avait déjà parlé, alors quand on dit bonjour, on le vous laissera deviner où c'est. On n'a pas parlé, je me suis fait les c'est pas les auditeurs là justement, c'est les spectateurs ont dû voir qu'à un moment on n'a pas parlé d'Aaron Gordon et de Denver.
Ah.
Bon, on en a parlé il y a 10 jours.
On est obligé de lancer Alan parce qu'il a eu, c'est lui qui a
pour
eu
une fois.
Cette idée lumineuse
pour une fois
d'envoyer Aaron Gordon à Denver, moi qui le voyais destiné pour le froid du Minnesota. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette acquisition dont on avait déjà parlé?
Ouais. Qu'est-ce qui a marché à Denver l'année dernière? Murray, Jokic et Jeremy Grant. Un 3-4 polyvalent qui peut être acceptable, on va dire, au tir. et qui va pouvoir embêter hein, les Kawhi, les PG, les LeBron, peut-être même Luka en vrai. Aaron Gordon ne serait pas atroce, je pense. Et donc c'était vraiment ce qu'il fallait. Moi, j'adorais cette construction de Denver l'an passé dans la bulle. Et je pense qu'il s'en rapproche un peu avec ça. Gary Harris, je pense que bah en fait, il est franchement, il est devenu difficilement jouable dans certains match-ups de playoffs parce qu'il met plus dedans en fait. Parce qu'il met plus dedans. Et donc Will Barton est un joueur différent que j'apprécie pas forcément, mais qui peut se comprendre sur un banc de Denver qui est beaucoup moins bon que l'an passé. Donc avoir un Will Barton sur le banc, c'est pas mal. Donc je préfère garder Will Barton que Gary Harris. Et après, t'envoies un pic et t'envoies RJ Hampton. RJ Hampton, c'est tout ce qu'il fallait pour Orlando. Il avait une grosse cote au lycée. Tu peux le vendre comme un jeune talent et donc t'attires via ça. Donc j'aime beaucoup pour Orlando. J'aime pour Orlando et j'aime encore plus pour Denver.
Alors on salue Ilias qui nous a dit visiblement une acquisition de l'ampleur de celle de Corey Joseph par les Pistons, ça n'intéresse personne, c'est vraiment n'importe quoi. Désolé, on a voulu ouvrir sur Corey Joseph, mais visiblement ça a pas passé. On parle de Denver, je lisais un truc intéressant sur Denver, je lisais que Jeremy Grant de l'année dernière, il a fallu le faire exploser d'un point de vue rôle pour qu'il rentre un peu dans le costume de Denver, là où le costume qu'on va prêter à Aaron Gordon, limite il va falloir réduire ce qu'il faisait du côté de Orlando. Est-ce que t'es d'accord là-dessus, Madiane, avec ça?
Oui, il va falloir réduire le costume d'Aaron Gordon, et en fait pour le faire fitter, il y a quelque chose d'intéressant. Alors je déteste quand il faisait ça à Orlando, et heureusement il le refera pas à Denver. C'est quand il part se créer son tir à 3 points, et ça c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Quand on regarde le costume qu'avait Jeremy Grant l'an dernier. Et d'ailleurs, c'est assez dingue. Donc, je pense qu'il y a une erreur dans les stats que j'ai vues. Mais j'ai vu un 100% des tirs à 3 points de Jeremy Grant l'an dernier étaient à l'issue d'une passe.
Ça me surprendrait pas.
Que du catch and shoot.
Il fait que du catch and shoot. Et pour moi, justement, quand tu vois Aaron Gordon, si tu le limites offensivement à ce registre-là, alors ok, c'est pas le meilleur tireur, mais Jeremy Grant ne l'était pas non plus l'an passé. Enfin, le Jeremy Grant qu'on voit cette année, c'est une version évoluée. Qui a pris du galon au fur et à mesure du temps. Moi, je pense que avec ce costume-là très réduit offensivement, où il va, pareil, sur les tirs à 2 points, c'était 76% après une assist. Donc pareil, très élevé. Il va pas se créer son tir. Offensivement, on va le limiter. On va à un rôle très, très précis. Et là, on va surtout lui demander d'apporter une dimension plus athlétique défensivement dont ils ont besoin. Et on sait, Dans l'Ouest, en fait, athlétiquement, ils étaient quand même un peu limités par moment. Et justement, le fait de récupérer un joueur à qui ils vont pas demander grand-chose offensivement, mais qui va apporter sa dimension athlétique, moi, je vois difficilement mieux à trouver, surtout pour le prix qu'ils ont payé. Ils ont pas payé ça si cher que ça. Moi, je suis très content de ce trade. Je trouve que tout le monde s'y retrouve. Orlando s'en débarrasse et eux viennent combler un manque qu'ils avaient. J'espère que ça marchera aussi bien que Jeremy Grant. J'ai quand même des doutes. Je pense pas que ce sera aussi bien, mais ça reste décent.
À regarder quel Aaron Gordon on ira au tir. J'ai vérifié ça, mais j'avais ça en tête. Montagne russe. C'est cette année. Alors l'échantillon est très faible. Il met tout. Je te lance Tom. Il est très faible. Il est à plus de 40. Mais historiquement, c'est un mec qui est autour des 30. Alors on me dira, il a jamais eu Jokic, il a jamais eu Jamal Murray, il a jamais eu ce qu'il aura à Denver. Donc là, peut-être qu'on aura enfin une réponse à l'énigme Aaron Gordon. Tom, tu nous dis ce que t'as à nous dire sur ça, et puis vu que t'as pas beau parler ces dernières minutes, je te lance ensuite sur une question de Théo, qui nous demande, Miami, on reste dans la Floride avec Orlando, Miami va accrocher le top 4 avec ses ajouts. C'est une question. Donc d'abord Aaron Gordon et ensuite Miami.
Ben par rapport à Aaron Gordon, moi je trouve que c'est l'un des meilleurs moves par rapport à ce dont avait besoin l'équipe. Alors c'est pas un move, tu vois, c'est pas Aaron Gordon en soi, c'est ce qu'il génère. C'est-à-dire que aujourd'hui tu vas te pouvoir permettre d'arriver en playoff avec par exemple Aaron Gordon qui sera ton meilleur défenseur entre guillemets sur les ailiers adverses. Et ça enlève énormément de pression sur Michael Porter Jr. qui peut être caché sur le plus mauvais. Michael Porter Jr. typiquement, il peut être caché sur le pire des ailiers, l'ailier trendy quoi. Donc tu peux le cacher. Donc ça va être intéressant. Et surtout que les line-up avec Michael Porter Jr. et et Nikola Jokic. Assez étonnamment, ils sont très très forts déjà au rebond quand ils sont juste à deux. Donc avec Aaron Gordon, tu as juste du muscle et du coup, Aaron Gordon, il va être ton 3 en défense et ton 4 en attaque. Là où Michael Porter Jr., ça va être le contraire, ça va être plus ton 3 en attaque par rapport à son type de jeu, sa sélection de tir, et ça va être ton 4 en défense, quoi. Donc ouais. Je trouve que c'est bien. Et puis Aaron Gordon, globalement, hein, c'est le pire joueur du 5 offensivement, finalement. Donc est-ce que c'est pas ça le mieux, puisque Will Barton, on peut le critiquer, mais Will Barton, quand il est en forme, il offensivement, il a son mot à dire. Et puis les autres joueurs offensivement, voilà, il y a pas à les présenter. Et ils ont réussi à faire ça tout en gardant un peu la profondeur sur le poste de forward, en gros, en gardant Jamichael Green, en gardant Millsap. Donc ils sont musculeux. Là où ils sont peut-être plus vulnérables, c'est s'ils doivent par exemple jouer Portland, il y a personne pour défendre les extérieurs.
Après, vu comment Avery Bradley se fait un petit peu balader à droite et à gauche, quel impact ça aura? On va peut-être partir sur Miami, on en a déjà un peu parlé sur la dipôme.
C'est vrai la question.
T'inquiète Tom, c'est le live. Là, il n'y a pas de coupure. Miami, je suis obligé de lancer Alan, parce qu'on parle de Miami top 4. Moi, je me risque plus à parler de Miami, en fait, parce que c'est des fanbases qui nous rappellent souvent quand... On vous a pas sous-estimé, les gars. On est un podcast qui a cru dans votre qualification finale. Passons. Alan, la heat culture, est-ce qu'ils vont être top 4?
La fanbase la plus I told you so qui existe. Incroyable. Mais c'est de bonne guerre. C'est normal que j'ai le seum contre eux, ils nous ont battu en finale de compte. Heureusement. Bref, moi j'adore ce qu'a fait Miami, on va pas se mentir. Franchement, les ajouts qu'ils ont fait pour ce qu'ils ont donné, sans se gâcher leur flexibilité, leur chère flexibilité qu'ils vendent tout le temps parce que c'était une destination à Giannis et tout ça. Mais ça va quand même être une destination à quelque chose, parce que c'est Miami et parce que ils ont de la flexibilité. C'est un coup de maître. Tu récupères Bielitsa. Moi, c'est un des ajouts que je préfère, personnellement, de toute la deadline. Ce joueur-là, dans le système Miami, c'est Olynyk ou Leonard en meilleur, je pense. Et Olynyk et Leonard prenaient des minutes l'an passé dans la bulle, par moment. Oladipo, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de risque. Tu dump, tu t'envoies Olynyk, t'envoies Avery Bradley. Pour Bielitsa, t'envoies Chris Silva et Mo Harkless. En fait, tous les contrats qu'ils ont signés l'été passé, de potentiels role-players, selon les fans, pouvaient aider. Mais en fait, c'était pas qu'ils pouvaient aider, c'est qu'ils pouvaient surtout être échangés à la deadline. Myers, Leonard, Kelly Olynyk, Mo Harkless, Avery Bradley, ce type de contrat-là, ça facilitait des échanges pour pas trailer, avec en plus un ou deux picks, et c'est ce qui s'est passé. Et ils sont aussi sur Aldridge, je crois. Il y a rien de fait, mais ils sont aussi sur la Marcus Aldridge. Sans lâcher Duncan Robinson, sans lâcher Tyler Herro, qui a quand même une valeur en sortie de banc, même si c'est plus pas le joueur qu'il était dans la bulle. Non, super super taf. Et oui, pour moi, les favoris à la quatrième place à l'Ouest, je pense. À l'Est, pardon.
Tu les mets où, Madiane, dans la hiérarchie? On sait que les Nets sont en train de devenir un épouvantail. On va être honnête, mais toi tu les mets où dans la hiérarchie actuellement, ce hit de Miami?
Moi je les mets dans un tiers avec Boston, où pour moi il y a les Nets, hein, clairement eux, ils me font peur. T'as ensuite les Bucks et les Sixers, et après t'as dans un tiers en dessous encore les Celtics et Miami, et j'aurais tendance à dire que les deux équipes se valent à mes yeux. Mais par contre, si Oladipo ça clique, attention, parce que là je les verrais plutôt au-dessus des Celtics, et pourquoi pas aller pouvoir titiller des Sixers qui auront des difficultés lors de ces playoffs. On en a déjà parlé, donc clairement moi je pense que pour la quatrième place ils sont au bon spot finalement. Il y a personne qui s'est détaché. Ils peuvent clairement rattraper leur retard et venir la chercher. Je pense que c'est objectif de fin de saison. Ils en ont fini avec leurs soucis, j'espère pour eux. Donc s'ils ont pas trop de soucis là sur cette fin de saison avec des blessures, etc., ça, pour moi, à quatrième place, je vois difficilement comment elle peut leur échapper. Je vois surtout pas les Hornets ou les Knicks réussir à leur prendre. Boston, faudrait voir, mais Boston a aussi des difficultés en ce moment.
Sachant que, on révèle un peu, on va probablement faire notre traditionnel pour un ranking post-trade deadline dans les semaines qui viennent. Donc on va pas tout griller toutes nos cartouches, mais Tom, bah c'est la tradition, je te pose la même question, tu les situes où? Je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. Je trouve quand même qu'il y a quand même peu de valeurs sûres, en fait, je trouve, cette année à l'Est. Il y a quand même, historiquement, il y a des équipes, il y a pas de Raptors cette année, en fait. Où on sait en gros ce qu'ont donné les Raptors. Les Celtics, je leur prête quand même du potentiel avec Tatum. Les Nets, c'est bombe nucléaire, mais est-ce qu'ils vont tous arriver en bonne santé? Question de la défense. Milwaukee, est-ce que ça va réussir à passer le cap? Je trouve qu'il y a peu de valeurs sûres. Tom, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est peut-être le hit, cette valeur sûre, justement?
Ouais, je pense. Moi, le hit, je l'ai mis dans un tiers au-dessus de Boston, même. Je pense qu'ils sont plus proches avec ce qu'ils ont fait là, avec les joueurs qu'ils ont ajoutés. Je pense qu'ils sont plus, parce qu'ils sont beaucoup plus profonds. Là où Boston a quand même, même si Boston, ils sont, on peut dire qu'ils sont un peu top heavy, mais sur le poste de pivot, il y a, bon, on peut dire Tristan Thompson, mais bon, il y a à part lui, il y a très peu d'expérience à ce niveau-là, quoi. Là où Miami, t'as quand même des joueurs plutôt solides. Donc je pense que Miami, avec tous les ajouts qu'ils ont fait, même si ça va pas forcément cliquer tout de suite en playoff, je pense qu'ils sont un peu au-dessus de Boston. Et s'il y a un affrontement, c'est ça qui me fait le plus peur, entre guillemets, c'est quand il y a pas de, t'as aucun joueur vertical à part Bam, en fait. T'as pas de joueur vertical, et puis même ils ont perdu, même s'ils récupèrent par exemple sur le marché des buyouts la Marcus Aldridge, c'est pas un joueur dynamique. Et puis même, tu vois, quand tu prends, t'as parlé de Bilicha tout à l'heure, que t'as bien aimé l'addition de Bilicha. Olynyk, qui était un joueur de rotation, c'était un stretch 5, là où Bilicha est plus un stretch 4, tu vois. Et en termes de taille, alors oui, Olynyk, c'est pas un mec qui va prendre des rebonds, qui va pas être très dissuasif, mais je pense que c'est quand même un pivot, tu vois, c'est quand même un pivot, Bilicha est plus estampillé forwards. Donc je pense que ça met énormément de pression sur aussi sur Bam Adebayo, et on verra ce qu'ils arrivent à faire, mais je trouve que c'est une équipe qui peut être rangée dans le top 4 à l'Est sans souci, et qui, pour moi, ce serait une grosse déception s'ils passent pas au moins un tour de playoff cette année.
Question par rapport à un joueur qui peut-être pas Isaiah Thomas, le trophée, on rappelle le trophée Isaiah Thomas de la descente aux enfers. Jabari Parker, c'est une question de Starship John. Couper, fin de carrière ou fond de rotation quelque part? Je pense que s'il passe le test de l'ambassade de Chine, il peut peut-être aller, en Chine. Mais j'ai du mal à le voir en fin de rotation. Honnêtement, moi, les gars, j'ai du mal à le voir en fin de rotation quelque part.
Il a déjà été, et ça marche pas, quoi.
C'est pas un spécialiste comme on les aime, donc.
Il joue pas aux Kings, il jouait pas aux Hawks déjà l'année dernière, il s'est fait trader des Hawks. C'est
fini.
Faut savoir admettre que ça marche pas, en fait. Il faut tout simplement ça dire au bout d'un moment, bah non. Alors, ça reste sûrement d'ailleurs un très bon joueur de basket, hein, mais ça marche pas.
Et on a une question qui t'est directement adressée, Alan. Apparemment, Mason Jones a signé aux Sixers. Alan, ouais. Tu peux décrire le joueur, s'il te plaît. Je te donne 24 secondes.
Ok. C'est un joueur qui joue à Arkansas, donc avec Isaiah Joe l'an passé. Donc c'est deux joueurs dans ce Arkansas qui vont jouer aux Sixers. C'est un poste 1-2, pas très physique, fort shooter, un des meilleurs scores NCAA l'an passé, qui s'est fait non drafté, qui a joué à Houston sur le début d'année, qui a fait même un ou deux cartons avec Houston. C'est un joueur qui tire, passe, qui est pas un athlète.
Voilà. Il a respecté, il a vraiment écouté ce que je lui ai dit, alors que c'est n'importe quoi. Non mais c'est très bien. Voilà, c'est parfait. On a encore des questions, on en a assez discuté, on a Malik qui nous parle de Oladipo fait passer Miami au même niveau que les Bucks en playoff avec un vrai bon backup, qu'à Adebayo, il serait 2 pour l'Ouest. Mon problème, c'est quel Oladipo on aura? Les gars, Oladipo, il a fait 20 matchs aux Rockets.
Une bulle horrible.
S'il est changé contre une bouchée de pain, c'est pas seulement parce qu'il est expirant aussi. Hein.
Moi, je le laisse sur le même tiers des Celtics, justement, parce que je ne sais pas ce que donne Oladipo. Évidemment que si Oladipo, ça clique et qu'on a un bon Oladipo, là, c'est plus le tiers des Celtics et il rentre dans la cour des Sixers et des Bucks. Mais pour l'instant, c'est du papier. Moi, j'ai rien vu sur le terrain.
crois que Oladipo, sa plus grosse valeur, c'est que sa plus grosse valeur Oladipo, c'est que c'est une assurance à Dragic, hein, parce que Dragic là, il est dans le fort mol, on le conserve pour les playoffs. Donc, je pense que c'est ça sa plus grosse valeur, hein, puisque voilà, le Heat, quand tu les regardes jouer cette saison par rapport à l'an dernier, tu sens que, enfin, il y a moins de liens, les shoots sont beaucoup plus durs, notamment pour tous les shooters en fait. Duncan Robinson, il est défendu, mais enfin, il y a beaucoup moins de fluidité. Et je pense que le fait que Dragic ne soit pas aussi bon qu'il était dans la bulle, ça joue énormément sur le niveau de playmaking global de l'équipe. Donc avoir un joueur comme Oladipo qui peut reprendre un peu ce rôle-là, parce que Kendrick Nunn, il a joué un peu sur les derniers matchs là, il a repris un peu ce rôle-là avec un jeu plutôt intéressant sur pick and roll, un peu à la percussion, et c'est quelque chose qu'il faut absolument de la gravité vers le cercle, avec un joueur qui peut aller se créer son tir vers le cercle en perçant la défense, plutôt que des finisseurs tout simples, quoi.
Mais c'est normal que le niveau de Hero et Dragic soit pas le même que dans la bulle, enfin c'était pas normal, on a été le premier à le dire, et donc ils en pâtissent un peu, et c'est normal. Et donc il faut un joueur plus référencé sur ce domaine-là. Et puis en plus ils ont eu Covid, ils ont été blessés. Plus de Oladipo et plus de Dragic potentiellement plus tard, c'est moins de Gabe Vincent, moins de Max Strus, moins de ces joueurs-là. Et donc ton niveau qui augmente, quoi.
On a une question sur Tony Bradley qui m'a fait un peu rigoler tout à l'heure. Tony Bradley, il a encore un potentiel à développer où il devrait rester un entre guillemets éboueur de fondement au KC. Je pense qu'on est d'accord que c'est un joueur de banc. Peut-être pas éboueur, en l'occurrence, mais c'est un joueur de fond de banc. Et tant qu'on reste dans les amabilités, j'avais oublié de noter Damian Gordon qui disait « Gordon, on parlait d'Aaron, est éclaté, c'est déjà la fin de carrière direction Hall of Shame. » Je pense que c'est peut-être un cousin qui n'a pas apprécié les derniers.
Le mot « éclaté » déjà, tandis que je vais charger.
Une question super intéressante de Théo. Le trade qui n'a pas eu lieu, que vous auriez aimé voir. Celle-là, je l'aime vraiment. Je t'ai vu tiquer, Madiane, je te lance. Alors, je vous laisse peut-être un temps de réflexion, mais quel trade t'aurais voulu voir?
On en a un peu parlé quand même, mais je trouve que Kyle Lowry, c'est un trade que j'aurais aimé voir. Et en fait, quand les Sixers bougent pour George Hill, moi, je suis persuadé qu'il va atterrir à Los Angeles. Alors, c'était difficile à monter ce genre de trade, clairement, et je pense que c'est ce qui a fait que l'opération n'a pas abouti, c'est que monter ce trade n'était pas neutre au vu du salaire de Kyle Lowry. Mais j'aurais aimé le voir soit en 1 aux Lakers, soit en 1 aux Clippers, et voir ce que ça donne, parce que ça aurait pu être très intéressant, parce que j'ai peur, malheureusement, que les tarés des Nets au complet sans blessure soient un peu forts.
Alan, t'en penses quoi du coup, le trade que tu aurais aimé voir? Je suis assez d'accord avec Kyle Lowry, j'aurais aimé le voir bouger pour Toronto, peut-être pour refermer la page, et oui, pour peut-être surarmer une équipe.
Moi c'est Lonzo à Boston ou aux Clippers. Lonzo dans ces équipes-là, Lonzo à côté de un ou deux forts porteurs de balles. On voit déjà comment ça se passe avec Ingram et Zion, avec Tatum ou Kemba, avec les deux ailiers aux Clippers. J'aurais vraiment aimé voir ça pour lui, le voir dans ce rôle là et puis dans des matchs d'importance. Je pense que c'est un joueur ça peut être un joueur de playoff, Lonzo, je pense, avec son profil. Donc j'aurais aimé voir ça, même si je trouve que c'est bien qu'il reste au Pelican pour l'équipe,
même si je pense pas qu'il s'inscrive dans le futur vu ce qui a été dit, etc. Enfin, on verra après. Si on lui propose un contrat, les mecs, quand on propose de contrat, tu peux t'inscrire dans le futur. Tom, on t'avait perdu, on t'a retrouvé. Le trade que tu aurais aimé voir se concrétiser.
John Collins à Dallas.
Full attaque.
Ah oui, carrément.
À Dallas, avec à côté de Porzingis, en remplacement de Dwight Powell, à mon gars. Alors, j'aurais aimé voir ça.
Non, c'est plutôt pas mal. Moi, je vous avoue que j'aurais aimé aussi le Aaron Gordon à Minnesota. J'aurais aussi aimé voir celui-là.
Qu'est-ce que t'as avec Minnesota?
Mais parce que j'ai envie qu'il se passe des trucs. Les gars, on se le dit entre nous, on parle tout le temps de Minnesota, ouais. ça nous embête. Ouais. On veut qu'il fasse des trucs. Ouais. Parce que j'en ai vraiment ras-le-bol de parler tous les ans de Minnesota alors qu'ils sont 14e à l'ouest. Ça me rend triste presque. Donc j'ai vraiment envie qu'il se passe des trucs. Tant mieux. Alors, je reprends où on en était. Vous pensez quoi des 34 draft picks d'OKC? Ils peuvent vraiment se reconstruire avec ça. Pour être honnête, on se garde le sujet OKC un peu sous la patte. OK pick, parce que il y a un podcast à faire dessus. On a Pierre, bien évidemment, qui le spécialiste international du Thunder. On se garde un peu de côté, mais ça va être compliqué. Sans qu'on se grille, les gars, il y a une obligation de mouvement, en fait, Sam Presti.
Ouais. Et moi, je pense que je serais les autres GM. Je sanctionnerais bien ça en disant, bah, vas-y, draft. En fait, je pense que il va tenter de monter, en fait, avec ses picks. Et c'est clairement ce qu'il doit faire. Et il faudra voir si le reste des GM de la ligue sera OK pour le laisser monter. Parce qu'il faut quand même monter les trades. Et si t'as envie de le laisser dans sa merde avec tous ses pics, ça peut être intéressant à voir parce qu'il peut pas tout signer.
Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense les autres? Je pense que ça peut marcher, Madiane, à une condition. Il n'y a pas de solidarité entre les GM et le front office. Il y aurait une pseudo-solidarité. Alors, mis à part si il se montre frileux comme un Danny Ainge, où on voit, je vais lancer Alan, que visiblement Danny Ainge, il est blacklisté à certains endroits, il paraît. Mais je pense toujours que il y aura toujours un GM, si on lui offre, toujours, qui est dans une situation inconfortable, qui dira oui à OKC.
Il y aura toujours, parce que ces pics-là, ils vont aussi pouvoir permettre d'acquérir des expirants contre d'autres assets, pouvoir acquérir des types de pouvoir se mettre dans des deals à trois pour récupérer des joueurs. Donc je pense qu'ils vont trouver. Je pense que c'est une équipe qui va aussi stasher pas mal de joueurs. On va pas se mentir, hein, t'as autant de pics au second tour, tu stashes. Ils l'ont déjà fait l'année dernière, ils ont drafté 3 Européens. Donc non, je pense que ça, il faudra avoir de la chance à la loterie. Là, en fait, le problème d'OKC, si c'est un problème, c'est qu'ils sont trop forts cette année, en fait. Alors, c'est un problème si tu veux drafter dans le top 3, top 5, mais c'est qu'ils sont trop forts, en fait. Et trop forts, d'ailleurs, parce que trop bien coachés, je pense qu'il faut le dire aussi. Il gagne des matchs avec des effectifs qui ressemblent à rien, des fois. Enfin, Tom, il peut le dire, hein. Ils ont battu Memphis dernièrement et que j'ai regardé le match. J'ai l'impression de regarder un match où j'étudie que des prospects parce que c'était, c'est super impressionnant. Ils ont Shea, qui pour moi avait le niveau All-Star cette année. Et donc, est-ce que sur le tout début, ça leur laisse une moins bonne marge de manœuvre? Parce que là, s'ils avaient le first pick, bah déjà, la reconstruction, elle est bonne. Tu peux avoir 34 picks. Si t'as le first pick et que tu draftes le bon gars, normalement, t'es bien lancé.
On peut peut-être enchaîner avec la... On est obligé. On parle NBA, on va parler des Lakers. Question de process avec la blessure de LeBron. Est-ce que c'est pas choquant de voir les Lakers ne pas lâcher Horton Tucker pour Laurie? Réponse, oui.
Oui. Alors, Ilya, c'est pas d'accord. Hein. Moi, il m'envoie parce qu'il adore Horton Tucker.
Franchement, mais je pense que c'est pas aussi simple que ça, en fait. Je pense que les Lakers, ils étaient utilisés comme levier pour faire céder Miami.
Pas totalement.
Je pense pas que c'est pas Horton Tucker. Surtout si c'est tu veux gagner des titres, tu as LeBron, Anthony Davis, tu as l'opportunité de signer Kyle Lowry. Je pense que c'est surtout. Je pense pas que c'était Horton Tucker le deal breaker entre guillemets. Je pense que c'était uniquement pour faire levier. Franchement.
Il y a eu beaucoup de dans les dernières, enfin, on le sait, c'est habituel, mais dans les dernières heures, il y a beaucoup ce cas-là. Enfin, il y avait des associations équipes joueurs qui étaient lunaires sur les dernières minutes. Hein. Mais moi, je suis assez d'accord. Après, je vois tout le Alan. Il y a très longtemps, t'avais mentionné son potentiel dans Feu One and Done de Horton Tucker, et on l'entrevoit. Mais moi, je reste toujours fasciné par la valeur qu'on octroie à certains joueurs. Pour moi, l'exemple le plus typique étant Tyler Hero, dont on a parlé, qui a quand même une valeur qui est totalement disproportionnée. C'est le Bitcoin NBA, passons, ou Tesla. Tesla, pas Tesla. Bref, petite question rapide. Vous pensez que Vincent Poirier a encore un avenir en NBA?
Je sais pas du tout. C'est pas un joueur qui a joué beaucoup depuis qu'il est arrivé en NBA. Mmh. Je pense qu'il y a une histoire d'opportunité. Il y a peut-être aussi une histoire de niveau. Alors peut-être que c'est pas le pire intérieur partout où il est passé, mais il a jamais eu les opportunités. Et puis, je pense pas que. Franchement, je suis plutôt inquiet moi pour lui. Je suis plutôt inquiet pour son avenir en NBA.
Madiane, Tom.
Non, mais c'est compliqué.
Alan, c'est fatigant. Une heure.
C'est compliqué. Il a vraiment pas joué. Ça fait un moment, il joue pas. Quand tu joues pas, c'est que tu n'apportes pas assez de valeur. Hein, je suis désolé, mais les coachs, ils sont pas stupides. Hein. Si c'était ok, ils joueraient. Visiblement, c'est non. Donc, est-ce qu'il doit trouver le bon endroit? Oui, mais où est-ce qu'il aurait une chance? Les pivots bon marché, c'est peut-être le pire marché parce qu'en fait, tu peux en trouver plein au minimum avec beaucoup d'expérience et très très fort. Donc je pense qu'il est pas au bon poste et que malheureusement personne l'a vu jouer, donc qui prendrait le risque de prendre un roster spot pour lui? Je pense que ça va être très difficile pour lui.
Alan,
ouais, pareil.
On a rajouté.
Ouais, c'est dommage parce que c'était un vrai bon joueur d'Euroleague, mais opportunité, après il peut avoir sa chance, hein. Tu le mets au KC aujourd'hui, il peut prendre des minutes, hein. Tu le mets au Kings, il peut prendre des minutes, il est meilleur pour Whiteside. Je le dis, mais
c'est pas une take, hein.
Non, bah, pour certains peut-être, hein, je sais pas. Mais non, c'est dommage, mais on verra. Je serais pas surpris qu'il revienne en Europe.
Ok. Ben, je crois qu'on a réussi le tour de force de répondre pratiquement à tout. Ouais, vas-y, Tom.
On n'a pas parlé de Portland, du coup, du swap qu'ils ont fait avec Raptors.
Ouais.
Du swap qu'ils ont fait avec les Raptors. C'est plutôt, enfin, d'un point de vue CBS, c'est plutôt intéressant ce qu'ils ont fait, par exemple, les Raptors. Puisque vu que Gary Trent Jr. il est plus jeune, il est agent libre restreint, mais il a un petit cap hold. Vu que c'est une équipe qui projette d'utiliser du cap space, ils peuvent du coup conserver son petit cap hold et avoir leur cap space pour signer quelqu'un après. Ce qu'ils n'auraient pas pu faire avec Norman Powell, qui avait un cap hold beaucoup plus gros, environ à 17-18 millions. Et même du côté de Portland, moi je trouve ce qu'ils ont fait, c'est plutôt intéressant parce que Gary Trent Jr. est un joueur un peu moins dynamique en fait que Norman Powell. Et en fait, je pense qu'ils veulent essayer de répéter ce qu'ils avaient eu avec Rodney Hood quand ils étaient allés en finale de conférence avec contre Denver. C'est-à-dire que Damien Lillard, tu vois, CJ McCollum, c'est un peu... Powell, c'est un peu une assurance avec CJ McCollum, puisque CJ McCollum, il a repris, il a été longtemps blessé, et Damien Lillard, il va falloir un peu l'économiser. Donc du coup, ils ont un joueur dynamique. Et ce qui va être intéressant, c'est que avec le retour de Nurkic, ils ajoutent des joueurs qui sont capables de faire quelque chose en sortie de dribble. C'est-à-dire que tu vas pas te retrouver avec Covin, tu vas pas te retrouver, par exemple, si tu trappes Lillard et McCollum, tu le coupes du ballon, tu vas pas te retrouver avec Covington et Derrick Jones Jr. qui doivent prendre une décision. Là, ce qui va se passer, c'est que s'il y a un renversement de jeu sur Powell, tu sais qu'il va aller au cercle. Et je pense que c'est quelque chose qui va être... c'est peut-être pas quelque chose qui est bien... c'est peut-être pas un fit naturel pour la saison régulière, mais je pense que c'est un fit qui va les aider sur les playoffs.
Puis, ça a été beaucoup partagé, mais au niveau de la réussite au tir, incandescent cette année, ouais, Norman Powell. Donc,
Il faudra le payer. Hein, donc, ils ont les bird rights, il faudra le
c'est
payer.
C'est ça. Ouais. Est-ce que ça change, les gars? Parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes. Là, n'hésitez pas, les gens, à poser leur dernière question. Est-ce que ça change parce qu'on a eu le move de Gordon, on a eu le move aussi de Norman Powell. Est-ce que vous trouvez que cette trade deadline, elle change vraiment le visage de l'Ouest au niveau du deuxième tiers? Parce qu'on est d'accord, les Lakers et les Clippers, ils n'ont pas bougé. Mais est-ce que ça change un peu la hiérarchie pour les équipes un peu en dessous? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de bonnes choses, j'ai vu beaucoup d'analyses en scrollant comme un demeuré sur Twitter, j'ai vu beaucoup d'analyses comme quoi, ah oui, mais Norman Powell, ça change peut-être 2-3 trucs pour Portland, je sais pas. Alan, est-ce que t'es d'accord avec ça?
Ça dépend pourquoi. Pour être le meilleur du deuxième groupe ou pour challenger un des deux du groupe 1? C'est ça.
Est-ce qu'on croit vraiment que quelqu'un peut challenger un des deux du groupe 1?
Moi, j'ai personnellement du mal à le croire. J'ai du mal. Je veux revoir Denver être capable de rebattre les Clippers sur une deuxième fois. S'ils le font, là, il faut plus me parler des Clippers. Je le dis, honnêtement. Je veux voir Portland ou Dallas, parce que moi, je mets Dallas dans ce groupe. Et là, ce que Luka fait depuis 2 mois, c'est impressionnant. Donc, en fait, je pense qu'ils se tirent un peu tous la bourre entre eux, ce groupe-là. En fait, Gordon, Powell, JJ Redick, ça se tire un peu la bourre entre eux. Mais en fait, il y a une équipe qu'on oublie. Pour moi, c'est Phoenix.
Ouais.
Parce que moi, Phoenix, c'est au-dessus de toutes ces équipes-là, en fait. Ouais. Pour moi, cette année, dans l'optique playoff, Phoenix, c'est la troisième meilleure équipe de l'Ouest. C'est
théoriquement,
C'est ils ont bah après ils ont peut-être tout pour me plaire hein, mais tu vas arriver en playoff avec avec ta des soldats aux ailes, Chris Paul, Devin Booker dans ton back court. La question est Dario Saric en backup 5, la question c'est DeAndre Ayton. Moi je suis assez fan d'eux et c'est pour moi c'est la troisième meilleure équipe, ils se détachent un peu de ces équipes là, même si Denver avec le move d'Aaron Gordon et Portland avec le move de Powell, parce qu'en fait Portland va terminer les matchs avec les trois, Covington, Nurkic, c'est incroyable offensivement. Quand Denver va pouvoir terminer les matchs avec Gordon en 4, Michael Porter si jamais il se fait pas trouer, et Jamal le pick and roll Murray Jokic, c'est incroyable aussi. Mais ça va être super, mais je trouve que Phoenix, même s'ils ont rien fait, reste un gros challenger dans cette conf.
Les gars, est-ce qu'il y a une guerre mondiale? Est-ce que Utah a été rayé de la carte?
Ouais, pas, non. Non, mais justement, j'avais un point là-dessus. C'est que je pense que ces équipes-là ont voulu bouger parce qu'en vrai, il y a des bons coups à jouer même sans l'avantage du terrain. C'est-à-dire que si tu tombes sur Utah ou les Suns, c'est ouvert. C'est ouvert et tu peux passer ton tour. Et clairement, Portland et Denver se disent que en se renforçant et en changeant des choses, passer un tour, voir un deuxième n'est pas irréaliste selon dans quelle partie de tableau t'es, sachant que la blessure de LeBron change beaucoup les cartes à l'ouest, parce qu'on se dit actuellement que sans LeBron et avec AD aussi, les Lakers vont un peu dégringoler. Donc en fait, il y a une espèce de rebattage des cartes dans la conférence ouest, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont bougé, c'est qu'il y a des choses à jouer que les match-up que t'auras finalement, même si t'es pas si bien classé à l'ouest, pourraient être plus favorables que si t'étais 3 ou 4.
Je rappelle l'historique d'Anthony Davis contre Portland. Je suis pas sûr que ça soit génial, les gars.
Non, mais le but, c'est de jouer Utah et les Suns. Non, si tu jouais les Lakers, t'es éliminé. Si tu jouais les Clippers, t'es théoriquement éliminé.
Après, les Clippers...
Ils ont rajouté
un élément... Après, les Clippers, par rapport à... Quand tu vois leur intersaison et leur trade deadline, ils ont pris le pari de s'affaiblir pour la saison régulière, pour... s'améliorer théorique, enfin d'augmenter le plafond théorique pour les playoffs, parce que playoffs rondo, voilà, enfin c'est un running gag ce qu'il a fait la saison dernière, c'est pas incroyable ce qu'il a fait la saison dernière en playoffs, c'est un artisan majeur du titre des Lakers, donc eux ils espèrent que Rondo va leur donner cette production là, sachant que tu sais que Lou Williams c'est un usuel suspect entre guillemets en playoffs, c'est aussi la même chose, donc ils ont remplacé des joueurs qui étaient forts en saison régulière, que sont Montrezl Harrell et Lou Williams, par Serge Ibaka et aussi
Rondo,
qui améliorent le plafond de l'équipe, même si je trouve que le deal qu'ils ont fait, et pour moi le deal est négatif.
Hein. Il est atroce.
Le deal il est atroce, mais c'est juste que sur la théorie et sur ce dont ils ont besoin, je pense que Rondo a plus de chances de leur apporter, même si ce pourcentage de chances-là est très faible.
Ballmer, il s'en fiche, lui, des deals et de l'argent. Il s'en fiche complet. Mais moi, juste, après, je te laisse, Ben. Et je te l'ai dit, je crois, la dernière fois. Les Clippers, ils deviennent, parfois dépendants de leur adresse, je trouve, dans leur jeu. Et pour moi, c'est vraiment un problème. Ils ont Paul George Kawhi, ils vont pas sur la ligne. Quand ça rentre dedans et que Lou arrive à trouver deux trois trucs qui dans les défenses et que ça met dedans, ils sont injouables. Je pense que c'est la deuxième meilleure équipe de la ligue, mais dans des playoffs comme avec contre des équipes, ça me fait un peu peur parfois qu'ils soient trop sur l'adresse. Voilà.
Ça va être l'analyse la plus pourrie de ce live, mais ils peuvent pas se rater 2 ans de suite avec Kawhi, Paul George. J'y vois mal faire deux contre raté. Je parle perdre. Ouais. Enfin, et puis, ouais. C'est une équipe qui est dépendante du shoot, mais quand on regarde, on en avait parlé dans un podcast, les mecs qui tirent sont que des bons shooters, en fait, qui ont des bonnes positions de tir. Donc, il y a un moment, je comprends parfaitement l'inquiétude, et c'est vrai que ça rentre pas dans le moule des équipes qui font des trucs en playoff. Mais moi, je me dis que il y a un moment, c'est un miracle quand même que Denver passe l'année dernière, donc, Lou, alors on sait que nous on est un petit peu les vilains petits canards. On défend la capacité qu'il a parfois à mettre les joueurs dans des bonnes conditions. On verra. Je lis juste un petit commentaire intéressant. Rajon Rondo, ou l'histoire qui se répète, c'est Process qui nous dit ça. Dans une bonne équipe de playoff où il montre ses capacités, puis se fait surpayer par une équipe moyenne, puis se fait trader contre pas grand chose chez une équipe de playoff. Je te donne une petite question, Alan, en deux mots. Alan, le Jazz, c'est pas meilleur que Phoenix, nous demande Théo.
En saison régulière, oui, pas en playoff.
On verra. On a hâte. Je pense qu'on peut finir globalement sur ça, à part si vous avez d'autres questions. De Big Shaq Daddy qui nous demande, quel est votre sentiment global par rapport à cette deadline? Chaque année, c'est un peu décevant. Beaucoup de promesses et peu de moves. Alors, j'ai retrouvé la stat. Plus grand nombre de moves sur les 35 dernières années, 16 trades, 23 équipes, 46 joueurs échangés. Donc ça a été, honnêtement, je trouve pas que ça a été décevant. Il y a peut-être pas eu des gros noms ronflants, parce que le plus gros nom c'est Vucevic, alors certes c'est un All-Star, mais il y a eu quand même énormément de mouvements, pratiquement tout le monde a bougé.
Enfin, je trouve que ce que ça a augmenté, c'est le niveau de désespoir à la fin de la saison. Puisque là, ce qu'il faut se dire, c'est que parmi les Nets, Miami, Boston, Milwaukee,
Philly,
il y a quelqu'un qui va perdre au premier tour. Désespoir. Parmi toutes les équipes qu'on a citées à l'Ouest qui vont se renforcer, t'en as trois qui vont perdre au premier tour. Désespoir. Qui est le gagnant? Washington.
C'est la théorie de Tom. Ouais, Tom qui sous-entend que du coup tout le monde va aller se jeter sur Bradley Beal. Moi ma version ma version de base était un peu différente, c'était juste qu'à un moment il y en a qui vont se rendre compte que on est à 5 équipes du titre. Donc forcément, il va nous falloir quelqu'un. Et par contre Process qui nous dit étrangement aucune rumeur de tentative d'une équipe pour récupérer Bradley Beal, parce que je pense que tout le monde est dans le déni actuellement. Tout le monde pense pouvoir passer. Le retour sur Terre va être Adrien qui fait une arrivée. Oh, enfin, ça, c'est incroyable.
Parce que là, j'entends Washington le grand gagnant comme ça. I'm gonna let you finish, but voilà. Je vais faire un coucou juste pour la fin, pour la conclusion. Ça fait plaisir. On sort du travail et j'entends des choses.
On va te laisser parler sur tes boules.
Qu'est-ce qu'il veut, celui-là?
Il veut juste parler des boules. Alors,
on va être honnête, notre logiciel fait en sorte que tout le monde peut rentrer quand il veut. Donc on savait vraiment pas qu'Adrien allait arriver. Qu'est-ce que t'as à nous dire, Adrien? Alors par contre, ça nous fait exploser notre affichage
oui,
sur YouTube.
Oui, je suis désolé pour ça. Non, mais c'est juste pour la fin, parce que ça me faisait rire. Non, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas pu écouter tout le live puisque j'étais au boulot, donc je ne vais pas rebondir sur les choses que j'ai pas entendues. Mais juste sur cette question du bilan de cette trade deadline, moi je tiens à dire que je suis très content. Voilà, du côté des Bulls, enfin il se passe des choses. Fini cette franchise un peu amorphe avec Gar Foreman, John Paxson. On a balayé pratiquement tout ce qu'on avait récupéré de cette époque-là. Donc on fait des choses, on verra où ça nous mène évidemment.
C'est fini Wendell?
Bah Wendell c'est fini. Ah mais je l'aime toujours. Je lui souhaite bonne chance. Voilà, okay. Orlando, bonne chance. Mais il nous permet de récupérer Vucevic. Il y a plein de choses à dire. Je pense qu'on y reviendra quand on fera nos power rankings, comme tu disais Ben, probablement dans les prochaines semaines. J'aurai beaucoup de choses à dire sur les Bulls. Mais de mon côté, en tout cas, très satisfait de ce qui s'est passé. Puis c'était assez rigolo à suivre en parallèle, puis de vous voir en parler là. Donc voilà. Et je salue également tous les auditeurs du coup pendant une dizaine de minutes.
C'est une apparition incroyable quand même, superbe ouais. Apparition qu'on s'y attendait même pas nous-mêmes. Du coup les gars, je pense on va laisser Adrien quand même. Il est arrivé, il a fait le beau, il nous a voilà. Ouais, faut le laisser parler. On l'a laissé parler des Bulls. Qu'est-ce qui t'a marqué en dehors des Bulls?
En dehors des Bulls, ça les concerne un petit peu du coup, mais à distance, c'est l'explosion du Magic. C'est enfin entre guillemets enfin, parce que c'est un peu dur de dire ça. Même si je sais que ça va faire marrer ici, on en parle souvent entre nous, mais cette équipe du Magic qui se contentait avec son roster autour de Vucevic, Fournier, Gordon, d'essayer de faire le maximum, d'aller en playoff et puis d'essayer de continuer de progresser, il était temps de tirer une conclusion. Alors après, il y a des circonstances atténuantes avec la blessure de Markel Fultz, il y a plein de choses qui sont venues enrayer ce système, mais voilà, il était temps de faire autre chose. Alors est-ce que c'était les bons moves? Est-ce qu'ils sont pas allés un peu vite sur certains points? Je pense que ça mérite réflexion pour un peu de temps. Mais en tout cas, je pense que c'est le point marquant de cette deadline. C'est eux qui ont lancé en tout cas l'effet domino, comme il y a souvent sur ces fins de période de transfert.
Prenez Tyros en fantasy.
Ah oui.
parce que là.
Et suivez-le sur Twitter.
Oui, parce que là, croyez-moi qu'il va
enclencher
du tir.
Bon, c'était une des questions. Je crois que c'est une des seules questions. Je m'excuse. J'ai essayé de tout donner. Je crois qu'on avait une question sur. Donnez-nous le 5 du Magic ce soir ou un truc comme ça.
Tyros,
Gary Harris,
Non, Gargaris, je pense qu'il joue même pas. Je pense que ça va être Dwayne Bacon et Okiki.
Okay. Et le pire, ça va être le pire.
Attends, et du coup, Wendell, il va jouer quand même.
Bah, il est pas blessé?
Il va être sur le banc.
Je pense qu'il va être derrière. Ouais, il va être devant Bamba dans la rotation, mais Clifford va mettre Kembirch.
Ouais.
Mais tu vois, c'est pour ça, faut virer Clifford aussi à un moment.
Ah, c'est fait la première c'est étape, la tu lui as enlevé des bons joueurs. Maintenant, il peut plus faire évoluer ses bons joueurs.
Mais c'est peut-être la dernière pièce de cette période magique là dont on parlait. Le coach qui lui aussi joue pour gagner des matchs à court terme, entre guillemets. C'est peut-être
que tu lui mets une équipe pourrie, comme ça, même s'il fait jouer les meilleurs joueurs de l'équipe, il gagne quand même pas de match. Tu vois.
On nous rappelle que Tyros est blessé.
Les gars,
pas bon.
Bon bah Gary Harris.
Oui, mais en même temps qu'il regardait le Magic, sincèrement.
Ça va être Chasson Randle.
Ça va être Ennis ou Chasson Randle. Ennis ou Chasson Randle, un truc comme ça.
Aïe.
Alors, Jordan Bone. Ils ne sont pas là les nouveaux. Ah, j'ai cru qu'on parlait des nouveaux du podcast. Oh là là. Au bout d'une heure et demie, c'est ce qu'on a. Parce qu'en plus, on a Madian, qui sont des sophomores maintenant.
C'était la question que je t'avais posée, Ben. C'est est-ce qu'il y a un protocole là, pour les nouveaux qui vont arriver avec le Covid et
alors,
tout ça?
C'est la question qu'on se posait avant d'enregistrer. Pour être honnête, j'ai par exemple lu sur à propos de Norman Powell qui pourrait jouer déjà.
Ouais, moi j'ai vu
dans la Floride et tout ça, donc c'est pas loin.
Il
joue à Orlando, ce soir, Portland.
Mais visiblement, c'est une question assez intéressante, il n'y a pas de procédure de mise en quarantaine du joueur qui intègre une nouvelle.
Vucevic est annoncé jouer chez les Bulls demain, je crois, du coup. Donc,
ça aurait changé beaucoup de choses, ça, par contre. Parce que t'imagines, les trades se seraient fait beaucoup
plus tôt. Ouais.
Très bien. Eh bien, les gars, 21h, 1h30 de live. Alors, honnêtement, moi, je suis un peu un conservateur de la création de contenu. Je suis assez content de voir qu'on avait eu des questions. On a eu un nombre de spectateurs. J'arrive pas à m'y mettre. De spectateurs super constants. Je vois mes petites lignes. Ça a été constant. Donc, on vous remercie. Les gars, une dernière conclusion de la trade deadline. Je vais y aller dans l'ordre de l'affichage sur notre logiciel. Donc, Adrien, le Pokémon sauvage.
Eh ben, écoutez, je suis très content. On va aller faire les playoffs. Voilà.
Tom.
Vive les playoffs.
Alan.
Vive le tanking. Ça commence. Là, on a des bons candidats. Là.
Madian.
Vive les bas-fonds de l'Est. Je vais m'amuser encore.
Moi, je dirais le timing, les gars. Le timing. On pense à vous, là.
Ouais.
Le timing.
Ouais.
Tout est une question de timing. Merci, génial. Oh, c'est gentil de nous dire ça, Luc. Alors, franchement, on va voir si ça vous a plu. On peut remettre ça souvent. Alors, on va s'améliorer parce qu'il y a dans le game, il y a des mecs sur Twitch qui sont trop forts. Moi, on va être honnête, j'ai découvert vraiment Twitch cette semaine. J'ai découvert ça. Je suis un vieux de 24 ans. Donc, on verra comment s'adapter à tout ça. Mais en tout cas, on vous remercie. On vous l'a dit, ça va être disponible en replay. On va essayer de mettre des petits timestamps.
Timestamps, en effet.
Exactement. Ouais. Un autre petit commentaire, les gars, vous êtes au top, les analyses sont toujours incroyables, c'est un régal. Oh, c'est gentil.
Merci.
Honnêtement, là, on était en freestyle. Là, on n'avait pas bossé. On était vraiment en freestyle.
Je
ne
vois pas ce
qui
vous fait dire ça.
Vraiment. On avait hésité d'ailleurs avec un live en direct, mais on s'est dit avec un peu de recul, puis voilà, avant Koh-Lanta, parce que Koh-Lanta va bientôt commencer. C'était parfait. Puis l'équipe de France de rugby, c'est ce qu'on nous a dit aussi.
C'est vrai.
Ouais.
Très bien. Et bien du coup, on remercie tous ceux qui nous disent merci. Joe, Sol, Sosa, merci à tous. Et puis on vous souhaite un très bon week-end. Salut
Simon.
Salut tout le monde.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.